Le dévoilement de Dieu No 37. La fréquence de Dieu par 1. Le 18 juillet 2018. Brian Kozurek. Pasteur. Ce soir, nous allons examiner une pensée intéressante que frère Branham développe dans les paragraphes suivants de son sermon Dieu dévoilé. Nous reprendrons la lecture au paragraphe 131 où il dit, Moïse avait la parole. Maintenant souvenez-vous. Après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez? Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu. Maintenant, nous devons être prudents en écoutant la manière dont il dit ce qu'il dit ici, car plus tard nous l'entendrons dire que ce n'est pas la partie naturelle dont il est question. Mais il fait allusion à la partie spirituelle et que nous n'aimons, devons jamais regarder la partie naturelle, mais seulement la partie spirituelle. De même que Fr. Vell nous a toujours averti d'ôter nos regards du vase et de les porter sur le Dieu qui utilise le vase. Or, frère Branham poursuit, eh bien, il n'était plus Moïse. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien d'ennemi pouvait le toucher. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Il avait cette parole avec lui. Et, donc, quand il est revenu, les gens ont détourné la tête. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été changés. C'était un personnage différent. Il venait avec cette parole. Et il mettait un voile. La Bible dit, sur son visage. Car il avait la parole. Et il était la parole pour eux. Maintenant, frère Branham Néhémie nous dit pas ici que l'homme Moïse est à Dieu, mais que Dieu qui estère la parole a utilisé son vase. Gardez bien cela à l'esprit, sinon vous aurez d'autres dieux et Dieu a dit que vous n'aurez pas d'autres dieux en dehors de moi. 132 Maintenant regardez, si Moïse, ô frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse, comme Paul le disait ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, si Moïse devait se voiler le visage, avec une gloire comme celle-là sur lui, voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle, il s'agissait là d'une loi naturelle. Et si Moïse, sachant que cette loi devait périr, mais la gloire était tellement grande qu'elle aveuglait les gens, alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Des gens aveugles spirituellement. Oui. Cette gloire-là était passagère, mais cette gloire-ci n'y passera pas. Voyez? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune grâce, ni rien. Elle vous condamnait. C'est tout. Mais ceci, dont nous parlons, celle-là n'avait aucun pardon. Elle n'y faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous fournit un moyen de vous en sortir. 133 Et quand cette parole-là sera dévoilée? Oh! Là là! Quel genre de visage est-ce que ce sera? Il devra être voilé. Il faut qu'il soit voilé. Maintenant remarquez. Donc, l'esprit Esther volé dans un temple humain, voyez-vous, il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel. Or, rappelez-vous Dieu Esther esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est Esther Jean 4.24. Et c'est Esther Jésus qui l'a dit, parce qu'il parlait à une femme des nations et il lui a dit qu'il n'aimait savait pas qu'ils adoraient. Jean 4.1 Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21 Femme. Lui dit Jésus. Crois-moi. L'heure vient où ce Néhémie sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. 22 Vous adorez ce que vous Néhémie connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 mai l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Remarquez, il dit, l'heure vient où le vrai croyant sera en mesure de faire la distinction entre le vase et le Dieu qui utilise ce vase. Et puis Jésus dit, 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, Jésus dit ici, l'heure vient où le véritable adorateur sera à même de faire la distinction entre Dieu, qui est esprit, et le vase qu'il utilise, qui est naturel, physique. En d'autres termes, il dit, ôtez vos yeux du vase, et gardez les yeux de votre cœur sur Dieu qui utilise le vase. Maintenant, voici la chose que j'essaie de vous dire. Tant que vous faites exception de personne, vous n'entrerez jamais dans la parole que Dieu nous a apportée par sa descente. Tant que vous avez les yeux sur un vase, qui qu'il soit, vous manquez Dieu. Frère Branham a dit dans son sermon un paradoxe dîme 17 janvier 65 son 16. Eh bien, mes amis, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois qu'il est tout aussi capable cet après-midi de produire, dans ce bâtiment, un paradoxe, car il est promis que ça arrivera. Et combien plus a-t-il promis? Combien plus cela subsiste-t-il dans la Bible? Jusqu'à cet âge même où nous vivons, de nouveau des Éphésiens au cours des âges de l'Église. 117 Nous avons cet âge de l'Église, et il nous est promis que dans l'âge de l'Église de Laodicée, il y aurait un autre Éphésien. C'est vrai. Et nous y sommes. Je crois, de tout mon cœur, que Jésus-Christ a fait la promesse. 118 Comme je l'ai dit dans mon dernier message, me tenant là contre ce mur-là, quand j'étais ici il y a quelques semaines, chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait sans cesse le tour du monde, sa Néhémie s'arrêtera jamais. Maintenant, écoutez attentivement, frère Branham est sur le point de nous énoncer un principe qui, si vous pouvez saisir ce qu'il dit, révolutionnera votre marche de foi. Il a dit, chaque mouvement que vous faites, vous le retrouverez au jugement. La télévision prouve que ça se tient ainsi, la quatrième dimension. En effet, la télévision Néhémie fabrique pas l'image, elle Néhémie sert que de canal de transmission de cette onde par un tube, et vous voyez une image. La couleur, tout, chaque objet en mouvement qu'il y a dans le monde, passe directement ici maintenant, cela est enregistré. 119 Un jour, votre enregistrement sera terminé, et vous aurez à répondre de ce qui aura été enregistré. C'est vrai. Ô Dieu, accorde-moi d'être vraiment planté, que je sois vraiment mort à moi-même et à tout ce qui est autour de moi, mais que je sois conscient de la parole de Dieu qui vit parmi nous aujourd'hui. Prions. Un paradoxe dîme 17 janvier 65 120 Seigneur Jésus, tu es aille un paradoxe, en tant que Dieu fait chair. Je te prie, Père Céleste, de te manifester cet après-midi et de nous en donner une confirmation ici aujourd'hui. Non seulement nous en donner une confirmation. Je pense que 90% ou plus de gens qui sont ici croient cela. Chaque parole. Mais afin que nous te voyions encore, pour montrer que cette parole que tu as proclamée parcourt encore sans cesse le monde, juste comme un enregistrement, que nous puissions entrer dans cet enregistrement aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions y entrer et que nous n'entendions pas cela juste comme si cela venait d'une seconde bouche, celle d'un homme, mais que cette bouche, cette personne et ces gens, tous ceux qui sont assis ici, deviennent ta parole. 121 Nous sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres pensées juste pour te voir tenir tes promesses, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ça. C'est Jean 14.12. Je te prie d'accorder cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que dit-il ici? Il nous dit que Dieu est descendu avec un cri de commandement, un message et que la parole parcourt le monde comme dans un cyclotron. Et il dit que nous devons entrer dans cette parole, dans cet enregistrement. Et quand nous le faisons, nous devenons une manifestation de cet enregistrement. Or, nous lisons aussi dans Jean 1.7 « Mais si nous marchons dans la lumière, la parole, le message, l'enregistrement du cri de commandement, comme il, Dieu, est à lui-même dans la lumière, le message, l'enregistrement du cri de commandement, alors cela manifeste quelque chose en nous, car nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, de toute incrédulité. Maintenant, revenons à Dieu dévoilé et nous prendrons au paragraphe 134 maintenant. C'est Paul qui parle ici, là, et dans ce sens, la parole esprit, nous sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables d'être ministres de l'esprit, de la force invisible de vie, l'esprit, qui prend la lettre et la manifeste. C'est lorsque vous entrez dans ce message enregistré, cette parole enregistrée, le cri de commandement, que vous devenez ce qu'Esther sous message enregistré. En d'autres termes, il parlait de la télévision et a déclaré que ses actions, ses couleurs, ses personnages et cet environnement parcourent la terre en ce moment même dans le domaine de l'esprit, de l'invisible, qu'on peut appeler fréquence. Mais voici le problème. Il a dit qu'il fallait un certain cristal afin de pouvoir capter la bonne fréquence, pour que se manifeste ce qui parcourt la terre en ce moment même. Et puis il dit qu'il en est de même avec ce message que Dieu est descendu apporter par le cri de commandement. Il fait le tour de la terre et ce depuis qu'il l'a apporté, mais il faut que cette semence prédestinée commence à capter cette fréquence et une fois que vous la captez, vous entrez dans une dimension différente des trois dimensions où vit votre corps. Vous entrez dans une dimension éternelle et en raison de votre prédestination non seulement à entendre ce qui est dans cette dimension supérieure, vous êtes aussi en mesure de voir spirituellement ce qui est descendu avec le cri commandement. Vous êtes maintenant entré dans cet espace-temps où la fréquence enregistrée de cette parole est plus une réalité que les trois dimensions dans lesquelles vit votre corps. Et tout comme le cristal du téléviseur, il se place ici dans ces trois dimensions, mais il est réglé par fréquence, afin de pouvoir capter cette quatrième dimension. Et bien que nos corps soient liés à ces trois dimensions dans lesquelles nous vivons, cependant notre semence génétique, qui est venue de Dieu, est capable d'exploiter cette dimension supérieure et de refléter ce qui est dans cette dimension supérieure où seul vit Dieu. Deutéronome 3.24 Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes faits? Écoutez, même Moïse, il fut un temps où Dieu a commencé à lui montrer ses voies. Rappelez-vous, le peuple n'a vu que les actes de Dieu, même Moïse connaissait les voies de Dieu. Maintenant, revenons à Dieu dévoilé où frère Branham poursuit en disant, 135 ça, c'était seulement la loi, qu'il fallait aller regarder, ça disait, tu n'es aimé commettra point d'adultère. Tu n'es aimé dérobera point. Tu n'es aimé mentira point. Tu n'es aimé fera point ceci, cela ou autre chose. Voyez, il fallait regarder ça. 136 Mais ceci, c'est l'esprit, qui vient sur la parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas de table de pierre, mais la présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu'un aurait forgé, ou un oudini quelconque, un tour, mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière quel genre de voile Esther ce que cela va être, et de perdre ça. Ensuite, frère Branham continue de montrer comment les gens ont vu Dieu descendre de sa dimension à la dimension où ils vivaient et l'effet que cela a eu sur eux. 137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette colonne de feu, et qu'il s'est remis à ébranler la terre, et les choses qu'il a faites, et la montagne qui était embrasée. Et même, quiconque essayait de s'approcher de cette montagne périssait. C'était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors, si cette fois-là il n'a ébranlé que la montagne, cette fois-ci il ébranlera les cieux et la terre. 138 Qu'en est-il de cette gloire-ci? Si celle-là était voilée par un voile naturel, celle-ci est-il vraiment voilée par un voile spirituel? Alors, Néhémie cherchez pas à regarder au naturel, entrez dans l'esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle heure nous vivons. Remarquez, quand Dieu a transcendé de sa dimension aux trois dimensions de l'homme, la gloire de voir cela était si grande que Moïse a dû mettre un voile sur son visage à cause de l'éclat de cette gloire se reflétant sur son visage, pour s'être assis en sa présence pendant 40 jours. Paul dit, combien plus grande sera la gloire sur nous quand Dieu Néhémie transcendra pas à notre dimension mais nous entrerons dans sa présence où il demeure, où ses paroles enregistrées, spirituelles et invisibles, vivent et demeurent. Et Esther pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 13.12 version du roi Jacques, car nous voyons maintenant à travers un verre, obscurément, mais alors nous verrons face à face, maintenant, nous connaissons en partie, mais alors nous connaîtrons comme nous sommes connus. Maintenant, dans le sermon de frère Branham le chef-d'œuvre au paragraphe 39. Il parle du reflet concernant la façon dont le sculpteur a une certaine image dans son esprit, qu'il veut faire apparaître dans sa sculpture. Et donc il taille la pierre, le vase lui-même jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qu'il avait en tête au départ, et pendant qu'il taille, il commence à voir cette image se matérialiser devant lui. En d'autres termes, ce qui avait été invisible dans la pierre, dans la substance terreuse, disons, simplement le vase, il a pu l'amener à la manifestation ou à la réalité. Or, nous lisons dans notre texte de 1 Corinthiens 13.12 là où Paul dit la même chose, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Par conséquent, je voudrais lire ce verset de la Bible dans diverses traductions alors que nous traitons cette pensée de ce que signifie d'être un reflet de l'image qui était dans la pensée du grand sculpteur avant même la création. Dans la traduction Diaglotte le même verset se lit, car maintenant nous voyons à travers un miroir, de manière floue, pas clairement, mais alors nous verrons face à face. Et dans la traduction amplifiée de 1 Corinthiens 13.12, car maintenant nous voyons au travers d'un miroir qui donne un reflet flou, confus, de la réalité, comme dans un rébus ou une énigme. Mais alors, quand la perfection viendra, nous verrons la réalité et nous verrons face à face. Or, je sais en partie, imparfaitement, mais alors je connaîtrai et comprendrai pleinement et clairement, de la même manière que j'ai été connu et compris pleinement et clairement, par Dieu. Or, avec ces versets des Écritures à l'esprit, tournons-nous encore vers le sermon de frère Branham intitulé le chef-d'œuvre 64-0705 et lisons à partir du paragraphe 39, après qu'il eut passé tout ce temps-là, pendant des années et des années, à produire ceci, il parle du sculpteur, Maintenant, ensuite, sous cette influence, de voir l'accomplissement de ce qu'il avait vu dans son cœur et dans sa vision, et de ce qu'il avait désiré voir, que c'était terminé. Et une fois terminé, il a été tellement inspiré par cela, qu'il s'interdit que son propre chef-d'œuvre devrait lui parler. Maintenant, je veux juste m'arrêter ici un instant et lier cette pensée à la Bible. On nous dit que Dieu est celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous et il est celui qui doit terminer cette œuvre. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On nous enseigne aussi qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, comme nous le voyons dans Hébreux 12:2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, que nous voyons dans Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Maintenant, avec ces écritures à l'esprit, je veux que vous pensiez selon les termes de la déclaration de frère Branham concernant le chef-d'œuvre. Et rappelez-vous que ce sermon le chef-d'œuvre n'était pas que Jésus soit ce chef-d'œuvre, mais ce sermon démontrait comment Dieu a créé son premier chef-d'œuvre en Jésus et que maintenant il est l'œuvre sur le corps de Christ afin qu'elle soit son nouveau chef-d'œuvre semblable à l'image du Fils premier-né. Alors continuons la lecture. Il l'a frappé à la jambe, en criant, « Parle !» Et il a eu un défaut à cause de cela. La statue a eu un défaut à cause de cela. Car à mon avis, c'est ce défaut qui en a fait un chef-d'œuvre. Bon. Peut-être que pour l'esprit, qui voit la chose différemment, vous pensez qu'il a été gâché à cause de cela. Non. À mon avis, c'est ce qui en a fait ce qu'il était. Il. En effet, après tant d'années de travail soigné et de labeur, et d'inspiration et tout, à produire cette œuvre, son labeur n'avait pas été en vain. La preuve était là. Elle était parfaite, et c'est pour ça qu'il criait, parle. En effet, il avait vu devant lui qu'il avait été capable d'exécuter, de réaliser la vision qu'il avait dans son esprit. C'est pourquoi, sous l'inspiration, il a fait quelque chose qui était contraire au bon sens, qui sortait de l'ordinaire. Il l'a frappé, en criant, « Parle !» Voyez-vous, il n'aurait pas fait ça s'il avait réfléchi. Mais il n'a pas réfléchi. C'était l'inspiration de voir ce qu'il avait dans son esprit se retrouver parfaitement devant lui. 41 Son labeur, ses tracas, et les longues nuits, et clochetraient pendant des jours. Peut-être qu'il mangeait un sandwich, et il pensait, il s'y remettait, et, non, ce n'était pas du tout comme ça. Maintenant il faut en venir à ceci, et il pensait. Ensuite, quand il l'a vu dans toute sa perfection, alors il en a vu la réalité. Le négatif, ce qu'il avait dans son esprit, était devenu réel, il était devenu positif. C'est pourquoi il a été saisi. Et c'était tellement réel qu'il n'a pas pu s'empêcher de s'écrier, « Parle !» 42 À mon avis, c'était un reflet. C'était un éloge à son œuvre. Sa propre œuvre l'a tellement inspiré, au point qu'il n'ait mis se possédait plus. Il a frappé et il a dit, parle. Tout comme avec Jésus, Dieu a été tellement inspiré par la vie d'obéissance dont a fait preuve son Fils que Dieu l'a emmené sur la montagne devant les témoins de l'Ancien et du Nouveau Testament, les témoins célestes et les témoins terrestres. Et Dieu a dit parle. Voici mon Fils bien-aimé en qui je me plais. Écoutez-le. Pour les témoins, c'était écoutez-les attentivement, mais pour son Fils, c'était parle. Et nous savons ce que signifie l'adoption de Fils. Nous en arrivons au point où nous sommes tellement semblables à l'image du Fils premier-né, et nous en arrivons au point où nous nous sommes tellement manifestés en tant que fils, que Dieu nous oint pour être des rois et des sacrificateurs. Et quand nous avons atteint ce point où Dieu produit en nous à la fois le vouloir et ensuite le faire, quand nous en arrivons à ce point, Dieu dit, parlez alors nous savons que le troisième pull sera une réalité, car ce troisième pull assistait à la parole parlée, où le grand sculpteur nous a amené au point où nous sommes tellement ce qu'il nous a vu être avant les fondations du monde, qu'il dira parler. Et le troisième pull entrera en activité. Maintenant, je voudrais approfondir ce soir sur ce reflet que frère Branham définit en outre comme le négatif passant au positif. Nous avons lu notre texte ce soir où, comment à travers les âges, l'homme a regardé dans le miroir de la parole mais ce miroir de la parole est apparu flou et sombre. Mais nous avons la promesse que lorsque ce qui est parfait viendra, le flou et l'obscurité de la parole disparaîtront. Maintenant, plusieurs traductions de ce verset appellent cet état d'imprécision une énigme. Ils disent, car nous voyons maintenant dans un miroir, dans une énigme, mais ensuite nous verrons face à face. Alors qu'est-ce que cela signifie de voir dans une énigme? Qu'est-ce qu'une énigme de toute façon? Le dictionnaire américain Héritage nous dit qu'une énigme est un texte qui est déroutant, ambigu ou inexplicable, qui complique ou qui est écrit de manière à être presque une devinette. Et c'est exactement ce que Dieu a dit de sa parole. Dieu a écrit sa parole de manière à la cacher aux sages et aux intelligents et pourtant il le révèle aux bébés qui veulent apprendre. L'apôtre Paul a dit, I Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que, Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, et il a écrit une grande partie des épîtres du Nouveau Testament qui constituent notre Bible. Nous voyons donc que la parole de Dieu a été écrite de telle manière que, à moins que Dieu Néhémie vous la révèle, vous Néhémie serez jamais en mesure de la comprendre. Il est donc écrit sous forme d'énigme. Lors d'une séance de questions et réponses, questions et réponses 59-1223, frère Branham dit, or, il n'y a pas moyen de voir le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est au-dedans de vous, le Saint-Esprit, et vous n'y pouvez pas voir ça avec les yeux. Donc, voir veut dire comprendre. Mais, avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l'intérieur de vous, vous comprenez, c'est avec ça que vous voyez. Voyez, vous regardez avec les yeux de Dieu. Et c'est ce qu'il disait dans le sermon un paradoxe. Il a dit que nous devons, d'une façon ou d'une autre, entrer dans cette fréquence ou cette dimension où la parole enregistrée fit continuellement le tour de la terre, et alors qu'elle en fait le tour, nous devons d'abord la voir, la reconnaître et ensuite agir sur elle en tendant la main pour nous en saisir alors qu'elle tourne autour de nous. Ou comme il l'a dit quelque part, l'enlèvement passera à travers vous si vous n'en êtes pas conscient. Nous parlons donc d'être conscient, d'être en harmonie, pour ainsi dire, avec la parole que Dieu nous a destinée en cette heure. Maintenant, frère Branham était conscient de ce à quoi Dieu l'avait appelé en cette heure et il devait non seulement l'entendre, mais aussi le reconnaître et ensuite y entrer. Et je crois qu'il a été appelé à être le reflet du message de cet âge. Nous sommes appelés à être des fils de Dieu ordonnés à être semblables à l'image du Fils premier-né, et donc à être manifestés comme fils, et donc à être adoptés. Alors que cette promesse enregistrée continue sa course et fait le tour de la terre à une fréquence dont la plupart des hommes ignorent tout, nous avons reçu l'ordre de nous reposer dans la présence de ce Fils, cette lumière, ce message, et quand nous l'entendons, le reconnaissons et agissons en conséquence. Nous devenons alors cette parole enregistrée manifestée. Ainsi, tout comme frère, Branham est devenu la parole de Dieu de l'heure, nous devons ainsi devenir la manifestation de la parole enregistrée qui parle de l'épouse, des élus, des fils d'adoption à cette heure. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu 11.25 que cette parole est cachée à tous, excepté à ceux à qui cela est ordonné être révélé. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et encore dans l'évangile de Luc 10.21 ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et remarquez que Jésus nous dit même que « je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi ». Et dans Matthieu 13 et Marc 4 et Luc 8 nous entendons la narration des apôtres demandant à Jésus pourquoi il parlait en paraboles. Les paraboles ressemblant beaucoup à des énigmes pour les gens. Et Jésus leur a répondu dans Matthieu 13.13 « Sester, pourquoi je leur parle en parabole? Parce qu'en voyant ils n'y voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni n'y comprennent. » 14 « Et pour eux s'accomplit cette prophétie des âges, vous entendrez de vos oreilles, et vous n'y comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous n'y verrez point. » 15 « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'aient mis voix de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'aie mis les guérisse. » Nous voyons donc que Jésus parlait sous forme d'énigme, d'une manière qui a gardé cachée la compréhension à ceux qui n'étaient pas destinés à comprendre. Maintenant, on nous dit aussi que le moment où les choses cachées et les choses obscures seront exposées ou révélées, c'est le moment où le Seigneur lui-même viendra comme une lumière et apportera par cela la lumière de sa présence, la révélation de ces choses cachées et de ces choses obscures. C'est pourquoi je martèle autant la parousia de Christ. Nous sommes censés nous reposer dans la présence de cette parousia. Et je crois que c'est ainsi que nous entrons dans cette dimension ou fréquence par laquelle nous pouvons entendre, puis reconnaître et ensuite agir sur ce que contient la parole enregistrée qui entoure la terre. Le fait que nous parlons de sa présence, et il est le Dieu invisible. Cette présence nous dit qu'en reconnaissant sa présence, nous prenons en fait conscience de cette dimension où Dieu vient et se déplace. Le fait que Dieu soit descendu nous fait savoir qu'il est descendu de sa dimension à la nôtre, de sa fréquence à la nôtre, mais le fait que nous devons rester en sa présence est ce qui nous amène à sa fréquence, sa dimension et en prendre conscience. En revenant aux pages 117 de Dieu dévoilé 64-06-14, frère Branham dit, bon. Et à une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ce voile, c'était une mort subite. Maintenant c'est Esther de Néhémie pas y pénétrer qui Esther la mort. Amen. Si Néhémie pouvait pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans sa puissance, c'est Esther la mort. Alors qu'à une époque, c'était la mort de pénétrer l'intérieur, maintenant c'est Esther de rester à l'extérieur qui Esther la mort. Tout le propitiatoire restera là, exposé au regard de tous, n'importe qui peut le voir, le voile Esther déchiré. Gloire à Dieu. Tout le propitiatoire restera exposé au regard de tous. 118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand ils se cachaient. C'était un mystère. Et maintenant, Esther exposé au regard de tous, ou à la vue de tous, révélé par ses paroles. Sest-er toujours la parole? Constamment? Laquelle est-er Dieu? Sest-er la parole qui dévoile la chose? En d'autres termes, comme Jésus a toujours fait allusion à la parole comme étant une porte, considérons cette porte comme étant un portail qui nous fait entrer dans la présence même de la gloire de la Shekinah. La fréquence de Dieu, la septième dimension où vit la présence de Dieu. Si ces gens avaient connu la parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le propitiatoire. Ils auraient vu qu'il était. 119 Qui était-ce donc? Pourquoi le voile s'est-il déchiré? Souvenez-vous, d'y pénétrer, c'était la mort. Personne n'aimait pouvait le voir. Moïse l'a vu, sous une forme, c'était un tourbe. C'était le dos d'un homme. Eh bien, le voici, le dos ensanglanté, le même homme. Qu'est-ce ce que c'était? Dieu voulait leur montrer le propitiatoire. Dieu voulait leur montrer qui il était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d'en haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a exposé Dieu au regard de tous. C'était Jésus-Christ, suspendu à la croix, le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens étaient trop aveugles pour le voir. Et Dieu habitait dans l'arche de l'Alliance. Sa parole fut placée entre les deux chérubins. Et tous ceux qui entraient dans le sein des saints, mouraient. Mais maintenant, de rester dehors, c'était la mort. Or, les hommes ont spéculé sur la puissance qui était là dans l'arche, parce que lorsque le souverain sacrificateur entrait en présence de cette arche, portant le pectoral, cela illuminait ce pectoral, alors les hommes ont spéculé sur la puissance de cette fréquence. I Corinthiens 4.5 Sester pourquoi Néhémie jugeait de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui il fera deux choses. 1. Mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 2. Manifestera les desseins des cœurs. Cela signifie qu'il discernera les pensées et les intentions des cœurs. Le discernement, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors il mettra en lumière et amènera la manifestation par cette lumière tout comme dans l'arche avec le pectoral d'Aaron. Ainsi, vous voyez comme nous l'avons déjà lu, quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est partiel disparaîtra. Et donc les compréhensions partielles de la parole de Dieu seront abolies lors de cette glorieuse présence du parfait. Et si la compréhension partielle disparaît, cela signifie que si nous avons une compréhension partielle, nous avons une mauvaise compréhension, ou une compréhension obscurcie. Mais quand la compréhension partielle disparaît, alors nous avons une compréhension complète. Et alors qu'est-ce ce qui arrivera? On nous dit dans Jean 3.2 Diaglotte, bien-aimé, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été mis en lumière, nous savons que s'il doit apparaître alors nous le verrons tel qu'il est. Jean 3.2 bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean 3.2 Amplifié bien-aimé. Nous sommes, ici même, et maintenant des enfants de Dieu. Il n'est pas encore révélé ou compris ce que nous serons après. Mais nous savons que quand il viendra et sera manifesté, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lui ressemblerons et serons comme lui, car nous le verrons comme il est réellement. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière d'Im 29 décembre 63 M 72 maintenant. Là, lumière était. Or, la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence. Et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et Esther, pourquoi cela n'a pris que quelques jours pour produire ces choses? En effet, la semence se trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était les lumières. 73 Et Esther, ainsi que Dieu agit aujourd'hui. Sa semence Esther déjà là, sa parole. La seule chose dont elle a besoin, c'est Esther que la lumière la frappe. Et l'Esther cette lumière, car elle Esther la parole. La parole et la lumière sont la même chose. La vie qu'Esther en elle Esther la lumière de la parole. Vous voyez, c'est Esther la vie. Le germe de vie se trouve dans le grain et le grain Esther. La vie Esther ce qui sort et produit la vie du grain. Esther ainsi que Christ dans la parole fait que la parole fasse ce qu'elle Esther censée faire. 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va. Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il n'aimé produira jamais quelque chose, parce qu'il n'aimé le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie. Si Esther une semence qui a la vie, il en Esther de même pour la parole. Voyez, la parole Esther Dieu et quand la lumière la frappe, cela l'amène. La lumière frappe cela. Cela vivifie de nouveau la parole. Chaque âge a toujours été comme cela. Ainsi, cette parole qui tourne autour de la terre, nous pouvons dire que Esther la semence vit, mais tant qu'elle reste dans ce format dimensionnel, elle reste sous forme de semence. Mais il faut que l'esprit nous joigne à cette parole qui tourne autour de la terre, afin que le gène semence atteigne cette parole. Tout comme le cristal atteint la fréquence. Quand cela se produit, cette parole devient notre vêtement, et nous sommes vêtus de cette parole. Où cette parole se reflète par notre gène semence tout comme le cristal projette la fréquence sur l'écran de télévision. Cette parole tournoie autour de la terre maintenant, et alors que nous l'écoutons nuit et jour, nous avons un aperçu de cette vie à travers le portail des bandes, et quand l'esprit frappe cette parole, elle se manifeste. C'est Esther pourquoi je dis que nous devons constamment écouter ces bandes. C'est Esther notre portail, mes frères et sœurs, qui nous donne accès à la présence de Dieu. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juin 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.